France Musique. Musique et moi.
Philippe Descola.
Priscille Lafitte, France Musique.
Il n'est sorti de la mer qu'une aurore ébauchée et sans sourire. La transformation des ténèbres en lumière, avec ses changeantes merveilles, son aphonie et sa mélodie, ses étoiles éteintes tour à tour dans l'or et les roses du matin, ne s'est point opérée. 4 ou 5 barques serraient le vent à la côte. Un grand vaisseau disparaissait à l'horizon. Des mouettes posées marquetaient en troupe la plage mouillée. Quelques-unes volaient pesamment au-dessus de la houle du large. Le reflux avait laissé le dessin de ses arceaux concentriques sur la grève. Le sable guirlandé de fucus était ridé par chaque flot, comme un front sur lequel le temps a passé. La lame, déroutante, enchaînait ses festons blancs à la rive abandonnée.
Bonjour Philippe Descola.
Bonjour.
Grand merci de venir dans les studios de France Musique pour ouvrir cette nouvelle année. Vous avez choisi un texte de Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe, comme premier mot pour cette émission. Qu'est-ce qui vous intéresse dans une lecture ou relecture, j'imagine, de Chateaubriand? Qui recherchez-vous? Est-ce une vision du monde que vous cherchez à comprendre?
Ce texte, c'est la rêverie du Lido. Chateaubriand a plus de 50 ans, plus de 60 ans même à l'époque, donc la plus grande partie de sa vie est derrière lui. Il part en ambassade à Prague pour saluer Charles X en exil, et il s'arrête à Venise. Et là, il y a une sorte de parenthèse merveilleuse pour lui. Les soucis du monde lui quittent les épaules. Et il médite à l'aube sur le Lido, cette île qui borde la lagune de Venise, qui n'était pas encore un lieu de villégiature, mais simplement une bande de sable. Ce texte, j'en ai une mémoire très forte parce que j'avais emmené sur le terrain les mémoires d'outre-tombe, C'est le grand avantage de la collection de la Pléiade. Quand on part longtemps dans des conditions difficiles et sans revenir vers des endroits où on peut trouver des livres, il faut emmener des livres qui contiennent beaucoup de mots. Et les Mémoires d'Outre-Tombe, que je n'avais pas lu encore à l'époque, je les lisais dans les moments de désœuvrement. Il y en a beaucoup quand on fait du terrain où que ce soit. En l'occurrence, c'était en Amazonie, chez les Atchouars, à la frontière de l'Équateur et du Pérou. Et je me souviens de façon très vivante de cette lecture de la rêverie du Lido, parce que je me suis dit que je n'arriverais jamais à c'est une des pages les plus classiques de la littérature française, mais que je n'arriverais jamais à décrire la forêt qui m'environnait avec les mots de Chateaubriand, parce que il y avait un tel tohu-bohu de plantes, d'insectes, pas d'animaux, parce que les animaux, on les voit pas beaucoup, qu'il était difficile de dissocier au sein de la quantité d'impressions sensorielles qui vous assaillent quand on est en forêt, comme le fait Chateaubriand, quelques éléments comme ça qui composent un tableau, au fond. Hein. C'est bien ça qu'il fait, il le fait avec une écriture éblouissante. Et cette description par contraste, parce qu'au fond le métier d'ethnologue qui est le mien, c'est un métier de contraste. Et ce contraste m'avait tout particulièrement frappé.
Et cette capacité effectivement à rendre sensible un environnement que vous avez cherché aussi un peu par la même forme dans Les Lances du Crépuscule à rendre aussi cette expérience-là que vous avez menée dans la deuxième moitié des années 70
voilà.
Chez ces Indiens.
Voilà, j'ai essayé de le faire, bien sûr, mais tant par les mots que dans la peinture de paysage, d'ailleurs, il est très très difficile de rendre la forêt tropicale. D'ailleurs, pratiquement l'une des seules personnes qui l'a faite, c'est quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds dans la forêt tropicale, c'est le douanier Rousseau, parce qu'il se fondait sur les serres d'Auteuil.
Mais attachons-nous peut-être à présent à la partition d'Éric Satie. On entendait juste à l'instant sous les doigts d'Aldo Ciccolini. Retrouvez-vous la même teinte que dans ce texte de Chateaubriand ?
Oui, il y a une tonalité mélancolique aussi. Il y a la même simplicité du décor. Et en plus, dans le cas de Satie, c'est des pièces pour piano que j'entendais chez ma grand-mère. Et donc il y a aussi une sorte de nostalgie, de même que Chateaubriand... sur la plage du Lido, rêve au fond à ce qu'aurait pu être son séjour à Venise avec si Juliette Récamier l'avait rejoint. Et il y a donc une très forte nostalgie dans sa description. De même, quand j'écoute Satie, j'ai une nostalgie d'une certaine époque où les choses paraissaient tranquillement mystérieuses, un peu mélancoliques. Et ce que j'aime aussi chez Satie, c'est ce mélange au fond de quelque chose qui me rappelle mon enfance, et en même temps le fait que, bien connu, que Satie était un anarchiste, et que, au fond, sa musique ne reflète pas le projet profond de bouleversement du monde qui était le sien, et qu'on continue à lui reprocher d'ailleurs.
De ce travail de terrain en Amazonie est née une pensée qui traverse depuis toute votre réflexion, Philippe Descola, sur nos rapports au vivant, sur les interactions entre humains et non-humains. Et la musique ouvrait-elle une voie pour dépasser le clivage entre nature et culture? Ce sera l'une des questions qui sous-tendra cet entretien, car vous avez perçu combien cette séparation entre nature et culture tombe, combien elle est inopérante dans la représentation du monde d'un Indien Atchouar. Alors avec quel bagage musical êtes-vous parti dans cette aventure d'ethnographie? Quelle oreille avez-vous prêté au son quotidien des Atchouars? Quel usage les Indiens font-ils de la musique? Est-ce pour une façon d'être relié au vivant? Vous allez nous emmener par la magie de la radio dans ces contrées, puisque vous avez effectué des enregistrements que vous avez généreusement mis à notre disposition ce matin. Philippe Descola, vous qui êtes professeur émérite au Collège de France, à la chaire d'anthropologie sociale à la suite de Claude Lévi-Strauss, nous allons, si vous le voulez bien, retracer votre parcours en s'attachant aux musiques qui l'ont jalonné et en nous arrêtant tout d'abord dans l'antre de Manuel de Falla, entendre l'amour sorcier.
Thank you. mi sangre abrazar al cielo. Si el agua no mata el fuego, a mi pena me condena, a mi querer me envenena, a mí me mata la pena. Ay.
L'amour sorcier, que Manuel de Falla a écrit pour orchestre et cantaora, une chanteuse flamenco. À cette époque, le compositeur de Falla, d'ailleurs, s'intéressait beaucoup et de près au cante rondo, au chant profond. Et avec le poète Federico Garcia Lorca, il avait organisé le tout premier concours de chant flamenco à Grenade en 1922. Est-ce que c'est cet aspect de l'intégration d'une tradition populaire du chant dans une orchestration symphonique qui vous intéresse ? C'est ça que vous entendez ?
Vous m'avez demandé quelles étaient mes premières émotions musicales, et donc c'était à une époque où j'aurais été bien incapable de penser des choses pareilles, vers 7-8 ans, même avant. J'ai découvert la musique à travers la discothèque de mes parents, bien sûr. Nous avions un gros appareil Telefunken avec cet œil magique vert et puis ces noms de stations étonnants, Beromünster, Ilversum, Sotens, etc. Et puis en haut, il y avait un tourne-disque. Et donc, j'ai méthodiquement exploré la discothèque de mes parents. J'étais particulièrement attiré par des musiques, évidemment, expressives, celles qui correspondent le mieux, pour quelqu'un qui n'était pas musicien, à ce que la musique évoquait en moi. Mon père était un historien hispaniste, et donc il y avait une coloration hispanique à la maison, et mes parents aimaient beaucoup non seulement des Falla, mais aussi les compositions que les musiciens français de la fin du 19e siècle avait écrite dans l'esprit espagnol, Bolero, Ravel, des choses comme ça. Et donc j'ai été très formé par cela et par cette combinaison, alors c'est vrai, mais je ne le formulais pas de façon aussi savante que vous, entre cette voix, le cante rondo, effectivement, qui jaillit du fond du corps comme ça, et l'orchestration symphonique. Les deux, je les trouvais très émouvants parce que j'entendais aussi par ailleurs le début de la musique populaire qui commençait à se répandre sur la radio. Et cette combinaison entre le chant profond et l'orchestration musicale me paraissait différer au fond de formes plus simples d'expression musicale qu'étaient les chants populaires sans... Enfin, la musique populaire,
des années quoi, 50.
On est dans les vers le milieu des années 60, oui, 60, 65, ouais. 66 à peu près. Non, que dis-je, je me rajeunis. 55, 56, oui, c'est ça, voilà.
Et c'est cette époque-là que vos parents vous amènent à l'opéra voir les Indes Galantes.
Voilà. Ça, c'était mon premier choc, vraiment. Esthétique, musical, émotif, je sais pas, je devais avoir 8 ou 9 ans, et ils m'ont amené voir les Indes Galantes, oui, à l'Opéra Garnier.
Oh.
Philippe Descola, 8-9 ans à l'Opéra Garnier, vous ne pouviez pas savoir que le destin était en train de vous faire un clin d'œil avec Cézanne Galland.
Oui, alors évidemment, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, un spectacle complet. Il y avait de très nombreux figurants sur la scène. Pour un petit garçon, ces gens qui chantaient, l'orchestre, des décors exubérants. Et c'était, je m'en suis rendu compte après, d'ailleurs en m'attardant un peu sur les Indes Galantes, à quel point c'était des Amérindiens très européens. Mais ce qui m'a, au fond, ma carrière d'ethnologue, elle est fondée, peut-être comme celle d'autres ethnologues, sur un goût de l'exotisme acquis dans l'enfance et dont on s'efforce par après d'éliminer, que l'on s'efforce d'éliminer parce que l'exotisme, c'est au fond une réduction à nos propres façons de voir, de façon d'être et de voir le monde, qui sont très différentes des nôtres, et donc on les simplifie en somme, et on les chanteurs et les gens qui se promènent sur la scène des Indes Galantes, ce sont des gens de la cour de France qui ont des sentiments exprimés comme ceux des gentilshommes de la cour de France, mais simplement ils ont des plumes. Et c'est les plumes qui m'attiraient. Et progressivement, j'ai appris à voir derrière les plumes, à me débarrasser de cet exotisme, de ce goût pour l'exotisme, qui était probablement aussi d'ailleurs à l'origine du goût pour l'amour sorcier ou pour des pièces de ce type, hein, de façon à aller voir derrière ce qu'il en était. Je pense que peut-être beaucoup de carrières d'ethnologues qui naissent au fond dans les faux semblants de ce type-là, et ensuite visent à dissiper ces faux semblants, sont fondés sur la même évolution.
Mais n'y a-t-il pas quand même dans ce papillon inconstant, par exemple, ou même dans les forêts paisibles, un rapport à la nature qui peut vous interpeller?
Oui, c'est un rapport à la nature, mais justement, c'est la nature en tant qu'elle est peuplée de symboles, et peuplée de symboles qui se rapportent aux humains. Ce qui était véritablement la nature de l'âge classique et du XVIIIe siècle. La nature telle que je l'ai découverte après n'était plus une nature précisément, parce que tous les êtres de la nature avaient une existence propre, indépendante de celle des humains, et devenaient autant d'interlocuteurs, non plus des supports de métaphores, des supports d'allégories poétiques, mais des sujets en tant que tels qui interagissaient avec les humains, quelquefois pour favoriser leur dessein, quelquefois pour les contrarier. Et donc c'était quelque chose de très différent. Mais il fallait peut-être aussi au départ cette sensibilité pour que je m'intéresse à cette question par après.
Adrevata in die
Philippe Descola, avec ce Requiem de forêt, nous sommes encore dans le répertoire de l'enfance, qui va constituer un de vos bagages culturels, musicaux, avant d'explorer d'autres cultures. Que vous dit ce Requiem de forêt de la façon de s'adresser à Dieu? Vous qui vous êtes intéressé au chant des atuars qui s'adresse à l'âme de plantes, d'animaux, on les entendra plus tard. Est-ce que cette adresse à Dieu est si différente de l'animisme?
Alors, c'est encore la discothèque de mes parents, en effet, et j'écoutais ce Requiem quasiment en boucle. Et si j'essaye maintenant de comprendre pourquoi j'étais tellement saisi par cette musique, je savais bien que ça avait à voir avec la mort, que c'était une musique rituelle, liturgique, qui accompagnait les défunts et qui devait apporter un réconfort aussi aux vivants. Mais je pense que ce qui me frappait tout particulièrement, c'est l'usage des chœurs. C'est-à-dire qu'un collectif, en l'occurrence un ensemble de fidèles, si l'on veut, s'adresse collectivement à Dieu pour faciliter le passage dans une autre vie. Et cette communion des voix et des sensibilités et des intentions me paraissait quelque chose d'étonnant. Donc c'est la découverte à la fois de la beauté du rituel et d'une... Parce que j'étais élevé dans une famille catholique romaine, j'ai perdu la foi très jeune, et donc et puis la musique, j'ai connu la liturgie d'avant Vatican II, était intéressante, mais jamais je n'ai éprouvé à l'église, quand j'y allais encore, ce genre de sentiment que le Requiem de forêt m'avait fait éprouver. J'arrive d'Angleterre où j'ai passé quelques mois à enseigner, et j'étais fellow dans un collège célèbre, King's College à Cambridge, et à vrai dire j'allais assez souvent au Evensong, qui est l'équivalent des vêpres dans la liturgie anglicane, simplement pour sentir cette communion tranquille dans la musique, je dirais pas dans la foi, parce que je crois que la plupart de mes collègues qui écoutaient la musique étaient aussi athées, et dans le sentiment apaisé au fond de former un collectif. Et je crois que cette façon que j'avais d'écouter le Requiem de forêt a beaucoup à voir avec cela, c'est-à-dire l'idée d'un collectif. Et c'est très différent, en fait, on le verra tout à l'heure, des façons de s'adresser aux esprits, puisque là, c'est tout un collectif qui s'élève par la voix et la musique vers la divinité, alors que dans le cas des Atchouars et dans le cas de beaucoup d'autres populations du même ordre, ce sont des dialogues qui existent aussi dans la musique sacrée européenne, peut-être en entendra-t-on tout à l'heure, mais ce sont des dialogues très personnels, très intimes, avec les esprits ou avec des êtres absents vis-à-vis desquels qu'on interpelle ou sur l'âme desquels on cherche à influer.
Vous nous parliez un tout petit peu plus tôt de musiques populaires qui ont marqué votre adolescence et vos jeunes années d'étudiant, et ce tiraillement avec, peut-être avec le répertoire savant auquel vos parents donnaient accès. Voici une musique emblématique du tout début des années 70, Riders on the Storm des Doors.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed her out alone. Riders on the storm, there's is a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road.
L'orage des Doors laisse place à un orage enregistré dans la forêt amazonienne au Pérou. Vous m'avez écrit pour préparer cette émission que cette chanson des Doors est l'autre face des études de philosophie. Vous aviez 22 ans, si je me trompe.
Oui, c'est ça. Là, c'est l'émancipation de la discothèque des parents, en effet, et de tous les groupes que nous écoutions, que nous aimions entendre, soit seuls, soit à quelques-uns. Les Doors étaient ceux que je préférais. Il y avait quelque chose de... j'aimais bien le rock des Stones ou des gens comme ça, mais il y avait dans une poésie dans les Doors. Il y avait aussi, au fond, la Californie derrière, que je m'imaginais. À la fois la Californie dans sa beauté, que j'ai découverte après, des paysages, mais aussi la Californie des routes interminables, des longues chevauchées en voiture, tout un univers très très particulier qui faisait rêver le petit Parisien que j'étais, qui était accompagné aussi quelquefois la prise de psychotropes qui était aussi caractéristique de l'époque.
Vous entendez ici la pluie et l'orage sur le parc national de Manu au Pérou, qui n'est pas très loin, je pense. Bon, un petit peu...
À l'échelle de l'Amazonie, oui. C'est à peu près la distance qu'il y a entre Paris et Cadix.
J'ai noté dans les Lances du Crépuscule que la musique, surtout le soir, couvrait le chant de la forêt, le bruit des animaux. Est-ce que les Indiens Achuars sont attentifs à cette musique-là de la pluie ?
Alors, ce qui est caractéristique, ce sont ces moments d'intensité en dehors de la pluie, parce que la pluie couvre tous les bruits, effectivement, qui sont l'aube, c'est-à-dire un peu avant le lever du jour, et puis le crépuscule, un peu avant la tombée de la nuit. Et à ce moment-là, les animaux diurnes et nocturnes cohabitent pendant une brève période et font un raffut, enfin, relatif. Alors que la période de silence absolu, c'est midi. Midi, on n'entend rien. Le bourdonnement des insectes, tout au plus.
Et là, on entend un enregistrement nocturne, ou juste à la tombée du soir, je
crois. Oui, oui. Oui, parce que la nuit, ce sont surtout, bien sûr, les insectes et puis les engoulevents. On sait, c'est trois notes caractéristiques descendantes comme ça qui bercent le sommeil partout en Amazonie.
Est-ce que les Indiens Achuars vous ont appris à écouter différemment ces sons-là ?
Oui, à distinguer surtout les chants, encore que je suis très loin de... C'est une expérience qui est enracinée dans l'enfance et qui se... développe au fil du temps. L'une des choses que j'ai étudiées sur le terrain, c'était la connaissance de la nature, si on peut dire, c'est-à-dire les savoirs que les Amérindiens avaient développés concernant les plantes et les animaux, et notamment dans l'identification des oiseaux. Et j'avais fait donc des enquêtes systématiques où je m'étais aperçu que des enfants d'une dizaine d'années connaissaient non seulement et pouvaient identifier bien sûr un très grand nombre d'oiseaux, pouvaient imiter leur chant. Pouvait dire si c'était diurne ou nocturne, pouvait dire de quoi il se nourrissait, dans quel type d'arbre il vivait, où il construisait leur nid, etc., etc. Donc un savoir absolument extraordinaire qui se développe au fil du temps. Et donc cette oreille, peut-être qu'il faut commencer plus tôt pour la développer, encore que je suis redevenu attentif à cela. Parce que j'ai passé une partie du confinement, la plus grande partie du confinement, dans une maison que j'ai dans le sud-ouest de la France, à essayer de me familiariser avec les oiseaux, qui étaient mes compagnons depuis longtemps, mais de façon un peu plus systématique.
Thank you.
Round Midnight, Miles Davis, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers et Philly Joe Jones.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
L'anthropologue, ethnologue, Philippe Descola est l'invité de Musique et moi ce matin. Que se passe-t-il donc après minuit chez les Achuar? On entendait là dans cette musique que... autour de minuit se déroulent des choses intéressantes qui sont très différentes d'une activité diurne. Les choses peuvent basculer après minuit. Est-ce que c'est le cas chez les Achuar?
Alors, c'est pas tellement autour de minuit que les choses se passent, c'est autour de 4 heures du matin. Les Achuar se lèvent très tôt. Et c'est là que les choses sérieuses se passent. C'est-à-dire, c'est là que, pour un ethnologue, on en apprend le plus, parce que les... tout le monde se réunit autour des feux, il fait un peu frais, et on boit une infusion d'une sorte de thé qui ressemble un peu au maté argentin, et c'est là qu'on parle des choses sérieuses, c'est là aussi parfois qu'on raconte des mythes, mais c'est là qu'on parle des choses sérieuses, c'est-à-dire en fait des affaires d'affrontements, de dangers possibles, de guerres, etc., qui constituaient à l'époque une grande partie de la vie des Hatchoirs. C'est là aussi qu'on discute des projets d'union entre des jeunes gens, donc d'alliance entre des familles, des choses comme ça. Et c'est là aussi parfois que on assassine un visiteur, ou bien qu'un visiteur vient vous assassiner parce que les règles de l'étiquette veulent que, alors que les hommes Hatchoirs à l'époque ne quittaient jamais leur fusil, qu'on le laisse de côté lorsqu'on boit cette infusion de Wayus, qui est ce thé. Et donc, c'est juste avant que le jour ne commence que se trame au fond les prodromes de la vie sociale dans ces conversations.
Parce que la nuit a porté conseil ?
Alors, la nuit... la nuit a porté conseil parce que on rêve la nuit. Et je me suis aperçu que moi qui rêvais, dont j'avais le sentiment que je rêvais plus, en tout cas je ne me souvenais pas de mes rêves, les rêves sont beaucoup plus vivaces parce qu'on se réveille constamment. Ce sont des maisons communes où il peut y avoir jusqu'à 30 personnes. Des enfants qui pleurent, un chien qui aboie. Un chien qui aboie, ça peut vouloir dire qu'il y a des gens à proximité qui sont animés de mauvaises intentions. Et donc le sommeil est constamment interrompu et chaque fois que l'on se réveille, on ramène de son sommeil, comme dans un filet, des images oniriques qui vont rester fixées dans la mémoire, ce qui fait que lorsqu'on se lève pour de bon, un peu plus tard, au bord des feux, on a avec soi cette provision d'images, et c'est à ce moment-là aussi qu'on interprète les rêves. Et donc les activités de la journée vont être décidées en partie par ce que l'on a rêvé dans la nuit, soit de façon très simple, c'est-à-dire par des systèmes de clés des songes un peu automatiques. Hein, c'est-à-dire on rêve qu'on chasse et donc c'est un système d'inversion, c'est un bon présage pour aller à la pêche et vice-versa. Mais on rêve aussi que des plantes ou des animaux vous rendent visite sous forme humaine, pour déclarer leurs intentions, pour se plaindre, pour établir un contact, et des choses comme ça. Et donc la fluidité, il y a une porosité au centre des frontières entre le visible et l'invisible en cette période où en plus on est dans la pénombre, qui est très manifeste.
Ici, Philippe Descola.
Alors, c'est un homme qui joue de la vielle. Donc, c'est une sorte de violon primitif à deux cordes.
Avec un archet ?
Avec un archet, et qui est un legs, en fait, d'une brève période de contact entre les Espagnols, les conquérants espagnols au XVIe siècle, qui ont occupé une partie du Piémont andin en bordure de la région des Chouars et des Hatchoirs, donc des gens qu'on appelait jadis les Jivaros, et qui ont été repoussés par un soulèvement général. Et il y avait probablement dans ces, a subsisté en somme de cette très brève occupation espagnole, ou des violons. Et les Achuars se sont emparés de ces violons et en ont fabriqué en bois. En général, c'est du balsa, c'est un bois très léger. Et il joue donc de, c'est pas de la vielle à roue, c'est la vielle, l'instrument de musique à cordes. Hein. La gamme des instruments est pas très large. Il y a la vielle, il y a deux types de flûtes, et puis il y a la guimbarde, l'arc musical. Et la plupart
et
de
à quel moment c'est joué?
Alors c'est en fait ce sont des ce qu'on a entendu là et beaucoup de la musique achuar, ce sont ce qu'on appelle des anent. Les anent, ce sont des discours de l'âme en quelque sorte, qui sont adressés soit à des êtres qui sont physiquement séparés de nous par les barrières de leur corps, donc il faut s'adresser directement à leur âme. Ça peut être des plantes, ça peut être des animaux, et ce sont des chants qu'on leur adresse, ce sont des paroles, mais on les adresse mentalement, ou à voix basse, ou bien on les siffle. Et donc cet homme ici, il utilise les trois registres, la musique instrumentale, il siffle et il chante. En fait, c'est un chant adressé à son épouse, mais pas en sa présence, de façon à ce que son épouse le traite bien, en quelque sorte. C'est pas un chant d'amour au sens classique, c'est un chant pour apaiser d'éventuelles dissensions dans le ménage, et il y a l'équivalent pour les femmes. Mais ces anettes, on les adresse aussi aux plantes, on les adresse aux animaux chassés, on les adresse aux esprits, etc.
Il n'y a pas d'utilisation de musique instrumentale pour elle seule,
non, la musique,
sans chant.
Non, la musique instrumentale est toujours la voix instrumentale implicite de l'âme. Et d'une manière générale, dans cette région du monde et dans d'autres aussi, la musique, c'est la voix des esprits, ou c'est la voix de l'esprit, ou c'est la voix avec laquelle on communique avec les esprits, c'est-à-dire avec lequel on fait passer des messages qui sont marqués par le fait qu'ils ne sont pas formulés dans le langage ordinaire. Et donc le chanté, ou le musical en général, ou l'instrumental, ce sont des modes de communication avec des êtres qui sont soit invisibles, soit qui ne sont pas présents directement et avec lesquels on communique à distance.
Krista, vina marusha machan tokarte to satahe, una vina marusha vitahe, vite, vidite machro vite, bonjaite, vina marush machan tokaratusan, vitahe, doktaratamsha. Saita, 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 saita. We Sangora Piazu, Sangora Piazu, Yabona Tihe, Atambia Sam, Usabo Sam, Usabo Sayo, Vivi Nahi, Vivi Nahi. Saita Satan, Saita Satan, Saita Saita, Vivi Nahi, Vivi Nahi. Yapona Tihe, Atambia Sam, Usabo Saya. Sangura Vina kona, yapona tihe, atandea samu, usabo samu, usabo saya, sangura piasu, ayavina kona, vivi nahi, vivi nahi, vivi nahi, vivi nahi. Pai, nuna, yang, zaman maya, nuaka samgar, kiar, bohosar,
Philippe Descola, vous écrivez que les Indiens chantent pour eux-mêmes, sotto voce. J'imagine que c'était délicat de leur tendre un micro sous le nez. Si ce chant n'est pas destiné à être entendu des autres, comment se transmet-il d'une génération à l'autre? Si j'ai bien compris, les Indiens ne se préoccupent pas trop de questions d'héritage. Donc, pas cette obsession-là. La musique ou le chant fait partie de ces rares transmissions.
Tout à fait. Les anentes, parce que c'est un anente qui s'adresse à un petit beau-frère. Saïtia, Saïtia, c'est le petit beau-frère, c'est un diminutif d'affection. Et ce petit beau-frère, c'est en réalité un singe laineux. Donc c'est un anente qui vise à mettre des singes laineux dans de bonnes dispositions pour qu'ils viennent accueillir le chasseur. Il dit, oui, vivignahe, ça veut dire je viens, il faudrait, et donc il fixe un rendez-vous à des singes laineux pour le lendemain, pour la chasse. Et ces chants sont transmis en général de beau-père à gendre, pas de père à fils, mais de beau-père à gendre, et de mère à fille plutôt, parce que les filles les apprennent plus tôt, et sont transmis dans des conditions très spéciales, c'est-à-dire, par exemple, pour les hommes, mais aussi un peu pour les femmes, on prend du jus de tabac vert, un excitant assez puissant, dans les narines, hein, on l'aspire comme ça, de façon à... c'est une technique qui est caractéristique en Amazonie, pour acquérir de la clairvoyance. Hein, et même les premières classes bilingues de professeurs qui enseignaient alphabétisant chez les Achuar, de recommander aux jeunes élèves de prendre du jus de tabac vert pour quand ils n'étaient pas trop vifs intellectuellement. Et c'est ce processus donc de mémorisation est intéressant parce que après on le garde pour soi. Et si j'ai pu les enregistrer, c'est que c'est avec le consentement, bien évidemment, des gens qui les chantaient, et en sachant que j'étais devenu une sorte de trafiquant d'anentes, puisque je les faisais écouter à d'autres avec leur consentement, et que les autres en enregistraient, et que donc j'ai fait circuler des anentes qui échappaient, en somme, au cercle de famille habituel. Voilà. Donc j'ai contribué à diffuser des anentes mal connues en dehors de leur point d'origine.
Et je crois que vous avez aussi diffusé ceci.
Sein kleiner Teller bleibt ihm immer lieb. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Knurren den alten Mann. Und lässt es gehen, alles wie es will. Trieb und sein
steht ihm nimmer still. Tritt um seine Leier, steht ihm nimmer still. Alter, soll ich mit dir gehen? Willst du meinen Liedern deine Leier
Philippe Descola, si j'ai bien compris, vous avez fait entendre, vous avez tenté cette expérience de diffuser ce Lyreman de Schubert aux Indies Tour. Est-ce qu'ils ont été sensibles à la voix de Dietrich Fischer-Dieskau, à cette interprétation?
Non, à ma grande tristesse, non. Il n'entendait pas. C'était comme du bruit. J'étais très frappé par cela. Le voyage d'hiver est quelque chose de poignant, et surtout c'est le dernier des leaders, celui-là, Lyreman, et c'est le plus poignant d'entre tous, au fond, c'est ce vieillard qui joue de la vielle au fond du village, les pieds dans la neige, personne ne l'écoute, les chiens grognent autour de lui, les enfants lui jettent des pierres, et on sent ce mouvement de la vielle qui anime la pièce, et pourtant cet homme semble il est seul avec lui-même et sa musique, et c'est poignant, mais en même temps il a une certaine forme d'autonomie, d'indépendance. Et donc j'ai vraiment une grande admiration, et je suis très ému par cette musique. Et Zatchor n'était pas ému du tout.
Vous parce avez que écouté peut-être sur quel support, sur un petit radiocassette?
J'avais emmené évidemment des instruments d'enregistrement. J'avais emmené un ouer qui pesait un âne mort. C'était effrayant parce qu'il consommait des quantités monstrueuses de piles. Et puis j'avais emmené une cassette, un enregistreur à cassette. De qualité. C'est là-dessus que j'avais emmené quelques morceaux de musique, un peu d'opéra aussi, et du piano. C'était rien pour eux. C'était
ils vous l'ont exprimé comme ça, ou c'est juste un
non,
désintérêt?
Non, je voyais dans leurs yeux qu'ils pensaient à autre chose, qu'ils n'écoutaient pas vraiment, ça ne les touchait pas.
Et pourtant, si je comprends bien, dans ces anentes, il y a aussi une question d'interprétation ou d'intention dans la voix qui est importante.
Alors les anentes, ce sont quasiment des objets matériels. Ils sont transmis, on évoquait tout à l'heure la transmission, ils sont transmis comme un objet quasiment indépendant que l'on fait vivre à chaque fois qu'on les chante, et qui doivent être chantés absolument sans modification par rapport au texte original. Et je pense que c'est cette indépendance entre l'interprétation et l'objet qu'on active, encore une fois, quasiment comme un instrument sur lequel on appuierait en quelque sorte pour qu'il produise un effet, qui joue un rôle. Mais je pense pas qu'il y ait d'expressivité au sens où Fischer-Dieskau met de l'expressivité dans sa manière de chanter, et qui n'est pas reconnu précisément par les Achois. Il n'y a pas de différence d'interprétation. C'est pas le même anent interprété par plusieurs personnes ne sera pas jugé en fonction de ses interprétations. Et il sera simplement jugé à l'aune de son efficacité. C'est pas du tout le même rapport à la musique.
Angonenge wahasia.
là, ce sont des femmes qui chantent en duo.
En cas de non, elles sont plusieurs. C'est un chœur.
Elles sont combien?
Oh, ça dépend. Je crois qu'elles là, elles étaient quatre, mais elles peuvent être jusqu'à 8 ou 10. Et ce sont des chants qu'on chante la nuit lorsque les hommes sont partis en expédition guerrière et qui visent à les protéger, les hommes, des dangers, au fond, de l'affrontement guerrier. Et ce que ces femmes chantent, c'est une sorte de voile protecteur autour des hommes. Ce qu'elles disent, c'est ce qui a donné le titre d'un de mes livres, hein, c'est « La lance du crépuscule arrive ». La lance du crépuscule, au fond, c'est le danger, c'est le destin, c'est l'inévitable. Et elles disent, donc, « La lance du crépuscule arrive ». Et ensuite, elles disent « Uchar, uchache ». Ça veut dire « j'avertis, j'avertis ». C'est-à-dire « méfie-toi, mon frère, mon père, mon mari, de cette lance du crépuscule ». Ces chants sont donc chantés pendant toute la nuit. Et à la fin de la nuit, c'est assez poignant, elles ont les voix enrouées par le chant. Et ce qui est caractéristique de ces chants, c'est qu'ils sont en canon, c'est qu'ils sont toujours décalés. En fait, la musique, choir et atchoir, c'est une musique de la dissonance.
Donc vous nous expliquez, Philippe Descola, qu'elles ne sont jamais ou rarement à l'unisson, on l'entend à quelques moments.
Voilà, elles sont à l'unisson quand elles chantent « urar urache », qui veut dire « j'avertis ». C'est-à-dire qu'elles conjuguent tous leurs efforts pour éveiller, avertir à la présence du danger. Mais la nature du danger est présentée de façon fragmentaire auparavant.
Hein. La dissonance est donc voulue à plein d'autres moments.
Voilà. Oui, le canon ou la dissonance, quand vous voulez. C'est plus qu'un canon, puisque, effectivement, il n'y a pas une répétition décalée, mais quelquefois, elle chante des choses différentes.
Est-ce que vous y voyez pourquoi il y a des individualités qui ont besoin d'exprimer des choses différentes que... Alors, pour quelle raison, vous pensez?
Un jeune collègue, musicologue, qui a travaillé sur la musique des choirs et des atchoirs, dit que c'est une excellente traduction de la vie sociale. J'allais dire que ce sont des individualistes, oui sans doute, mais ce sont pas des individualistes au sens qui nous est familier. Ce sont des individualistes en ce sens qu'ils s'accordent pour être... Le seul point d'accord, c'est pour être en désaccord, au fond. C'est-à-dire que c'est une société très segmentée, conflictuelle, avec des fortes personnalités. Et c'est un peu un paradoxe d'ailleurs, c'est qu'ils réussissent dans certaines circonstances à s'allier, notamment contre les Blancs, et maintenant contre les compagnies pétrolières, ou contre les compagnies minières chinoises, etc. Mais le reste du temps, c'est une société dans laquelle chaque individu est maître de lui-même, et toujours un peu en décalage vis-à-vis des autres. Et la musique, au fond, reflète cela.
Le Stabat Mater de Pergolèse, ici la version enregistrée par Rinaldo Alessandrini à la tête du Concerto Italiano. Philippe Descola, entendez-vous des choses en commun, un écho peut-être entre les chœurs de femmes à Tuor et ce duo de femmes qui ouvre ce Stabat Mater?
Oui, c'est-à-dire dans les deux cas, au fond, la musique exprime le pathos, les sentiments, et en l'occurrence, le danger, la douleur. C'est une des pièces les plus connues du répertoire musical occidental. Et chaque fois que je l'écoute, je suis profondément ému. Cette Stabat Mater Dolorosa Iuxta Crucem, on imagine la mère, non pas tenant comme des piétards le Christ, son enfant, dans ses bras, mais le regardant agoniser sur la croix. C'est une des choses les plus terribles qu'on puisse imaginer. Et en même temps, la musique lui donne à la fois quelque chose de poignant, mais une sorte de médiation qui rend cela supportable. Autrement, on devient fou avec une image pareille. Et c'est cette capacité qu'a la musique d'éveiller en nous. Moi, je suis quelqu'un d'assez cérébral. Je suis, je traduis en tout cas des sentiments et qu'éprouvent les autres dans des situations institutionnelles données en concept et à partir et au moyen d'outils analytiques. Mais la musique, dans ma vie, joue le rôle de, sinon d'exutoire, en tout cas d'ouverture vers le pathos, justement, vers le sentiment, vers l'indicible. Et je suis profondément admiratif des musiciens qui arrivent à transcrire dans des notes des choses que je suis incapable de dire, que même je crois les poètes ont du mal à dire, parce que la musique c'est comme les images, elle excède de beaucoup tout ce que l'on peut en dire, même lorsque c'est une musique chantée et que par conséquent on est conduit, comme dans le Stabat Mater, par les paroles, à comprendre ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi cette pièce de musique, oui.
Thank you.
Philippe Descola, vous avez souhaité qu'on entende cette prière de saint Augustin dans la voix de sœur Marie Kérouz. Pour quelle raison ?
Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas très original. La musique, c'est le pathos, c'est-à-dire c'est l'expression des sentiments. Ça se voit de façon très nette dans la foi extraordinaire qui jaillit de la voix de sœur Marie Kérouz. Mais ce qui m'a frappé, c'est la dédicace de la prière, parce que saint Augustin, pour des gens qui ont fait des études de philosophie, c'est évidemment un père de l'Église, mais c'est aussi un des fondements de la pensée occidentale. Et donc on le voit donc plutôt comme un intellectuel. Alors c'est vrai qu'en plus c'est un intellectuel cosmopolite, parce que il est né de l'autre côté de la Méditerranée, et il a et le fait qu'il soit célébré en arabe par une religieuse maronite m'a paru intéressant. Mais c'est surtout que cette prière s'adresse pas du tout au saint Augustin que les intellectuels connaissent, mais au saint Augustin protecteur, capable d'intercéder, parce que c'est justement un grand esprit, mais c'est sa capacité d'intercession auprès de Dieu qui compte moins que ses écrits. Et donc c'est un rapport à la musique et à la foi qui m'a paru tout à fait singulier et sur lequel je voulais terminer.
Un grand merci.
Merci
à vous. Descola, d'être venu parler de votre rapport à la musique dans Musique et moi. C'était un grand plaisir. Merci à toute l'équipe qui a contribué à cette émission, à ce Musique et moi. Nicolas de Pagraf à la technique, Marie Gros à la réalisation, Nelly Portal et Marie Ferdinand, attachée de production. Passez un très bon dimanche et une très belle semaine sur France Musique. Et à dimanche prochain, 11h, pour un nouveau Musique et moi.
À réécouter sur francemusique.fr.